Chers camarades et amis, tout d'abord, je voudrais vous souhaiter une belle fête dans la joie et la fraternité. Si les patrons peuvent nous voler pas mal de choses, ils ne pourront jamais nous voler ce droit, celui de faire la fête, alors profitons-en. Mais avant de passer au repas, je voudrais vous dire quelques mots sur la situation politique 3 ans après l'arrivée de Hollande au pouvoir. Comment ne pas être écœuré et révolté par la situation actuelle ? Les riches sont de plus en plus riches. On nous parle de croissance, de reprise économique. Les bénéfices des grandes entreprises sont au plus haut. Et c'est à nous, les travailleurs, précaires ou en CDI, du privé comme du public, les chômeurs, les retraités, que gouvernement et patronat imposent de faire des sacrifices. Ils nous l'imposent ici en France, mais c'est aux pauvres de toute la planète qu'ils mènent une véritable guerre de classe. Regardez ce qui se passe en Grèce. D'ici le 30 juin, la Grèce doit verser 1,6 milliard d'euros au Fonds monétaire international, le FMI, aujourd'hui dirigé par Christine Lagarde, une bourgeoise, ancienne avocate d'affaires et ancienne ministre de Sarkozy. Pour pouvoir rembourser le FMI, la Grèce doit pouvoir toucher 7,2 milliards d'euros prévus par le plan d'aide de l'Union européenne. Mais voilà, l'Union européenne veut imposer en échange de ce versement de nouvelles mesures d'austérité, en particulier une hausse de la TVA sur l'électricité et une diminution du montant des retraites. Le FMI et l'Union européenne ont le culot de dénoncer le montant des retraites trop important par rapport au PIB, le produit intérieur brut, en gros la richesse produite par le pays. Comme l'a fait remarquer à juste titre le Premier ministre grec Tsipras, élu en janvier, cela fait 5 ans que le FMI dicte sa politique à la Grèce, et c'est sous la houlette de ce même FMI et de l'Union européenne que le PIB a justement diminué de 25%. Mais est-ce les retraites qui coûtent trop cher par rapport à la richesse du pays ? Ou est-ce la cure d'austérité imposée par les banques et le FMI qui a ruiné la richesse du pays ? Poser la question, en fait, c'est y répondre. D'autant qu'en 5 ans, 200 000 emplois ont disparu dans la fonction publique en Grèce. Les retraites des travailleurs grecs sont misérables. Elles sont en moyenne de 665 euros par mois, mais près de la moitié touche même moins que cela. Et c'est aux retraités que le FMI, les banques, l'Union européenne demandent de faire des efforts. Pas aux armateurs grecs, ni à cette église orthodoxe riche à milliards. Alors oui, c'est écœurant, c'était révoltant. Comme est révoltant le discours qu'on entend à la télévision, qui prétend que le défaut de paiement de la Grèce coûterait à chacun d'entre nous 600 euros. Mais qui a acculé l'État grec ? Et pas seulement lui d'ailleurs, mais l'ensemble des États a un endettement colossal qui les menace de faillite. Ce sont les banques, les détenteurs de capitaux, cette grande bourgeoisie qui n'entreprend plus rien, mais qui se contente de parasiter toute la société. La Banque Centrale Européenne a récemment débloqué 1 000 milliards d'euros. Oui, vous avez bien entendu 1 000. Toute cette fortune a été débloquée pour racheter aux banques les titres pourris qu'elles détiennent et qui ne valent plus rien, ou pas grand-chose. Ces 1 000 milliards représentent un nouveau cadeau aux banques, à qui l'on ne demande aucun effort. Et pour les trouver, le FMI et l'Union européenne exigent par contre du gouvernement grec qu'il aille faire les poches des retraités grecs pour leur voler les quelques euros qui pourraient bien leur rester. Ce qui se passe en Grèce nous concerne, car c'est notre avenir que nous avons sous les yeux. Un avenir pas si lointain, car on voit nombre de collectivités locales diminuer les emplois, les subventions, les travaux, étranglées qu'elles sont par le fait que les finances publiques sont littéralement siphonnées par le patronat et plus globalement par la grande bourgeoisie. Pour ne prendre qu'un exemple, celui de PSA où je travaille ici à Mulhouse, le gouvernement a mis en place un crédit d'impôt pour les entreprises, le CICE, où E veut dire emploi. Il va sans dire que les plus grosses entreprises touchent évidemment le pactole. Ainsi, PSA a touché en 2014 22 millions d'euros de plus au titre du CICE qu'en 2013. Au total, sur 2 ans, PSA a touché de l'État 126 millions rien qu'avec ce mécanisme du CICE. Le gouvernement justifie ce cadeau fiscal parce qu'il s'agirait de favoriser l'emploi. Mais PSA a supprimé 14 500 emplois ces 2 dernières années. Alors pourquoi lui verser encore des dizaines de millions ? La seule raison, c'est d'enrichir toujours plus les actionnaires, dont la famille Peugeot. Ces dizaines de millions devraient servir à construire les logements qui manquent, à embaucher des enseignants, des infirmières, à former des médecins, tellement il devient impossible d'obtenir un rendez-vous chez l'ophtalmo ou le dentiste. Tout cet argent donné à fonds perdu aux grosses entreprises devrait servir à améliorer les transports, la poste, la vie dans les quartiers, tout ce qui fait le quotidien des classes populaires. Il faudrait imposer la transparence sur les comptes des entreprises publiques et privées. Et il faut lever le secret bancaire et commercial. Ce secret des affaires qu'une directive européenne vient encore de renforcer pour mieux mettre à l'abri des regards le véritable pillage qu'exercent les banques et les actionnaires sur toute la société. Depuis 3 ans, Hollande est vraiment l'homme à tout faire du grand patronat. Retraite, loi sur la flexibilité, crédit d'impôt, compétitivité emploi, pacte de responsabilité, travail du dimanche, affaiblissement des prud'hommes, recul des droits syndicaux avec la loi Rebsamen, la liste s'allonge tous les jours. En 3 ans, Hollande a fait plus pour démanteler les droits des travailleurs et baisser le prétendu coût du travail que Sarkozy n'en a fait en 5 ans. D'un côté, le gouvernement a entériné les dividendes exorbitants, les retraites chapeaux, par exemple les 300 000 euros mensuels de Philippe Varin, l'ex-PDG de Peugeot qui avait promis d'y renoncer. Il a arrosé le patronat de milliards et de l'autre côté, il a gelé le SMIC, les pensions, les droits sociaux et imposé des coupes drastiques comme celles qu'il veut faire dans les hôpitaux. Oui, la bourgeoisie peut dire merci à Hollande. Grâce à lui, elle a d'ores et déjà profité de la crise. L'économie capitaliste est une jungle mondiale où les gros et les moyens capitalistes se combattent, mangent les plus petits, sans que personne ne puisse connaître l'issue globale de cette concurrence impitoyable. Cours du pétrole et de l'euro, taux de croissance, valeurs boursières, tout cela va et vient, tels des phénomènes climatiques de plus en plus déréglés à cause de la spéculation. En un mot, l'économie capitaliste est un bateau ivre, où le travail des dirigeants politiques se borne à faire accepter aux travailleurs une politique anti-ouvrière, car dans toute cette anarchie, il y a une constante. Plus on fait trimer les travailleurs, mieux cela ira pour la bourgeoisie. Eh bien voilà ce à quoi s'attelle Hollande depuis 3 ans. Avec le chantage à la fermeture et à la compétitivité, avec le chantage au remboursement de la dette, la bourgeoisie a marqué des points dans la lutte de classe. Cela fait désormais partie de ses acquis. Et tant qu'il n'y aura pas de réaction de la part des exploités, elle continuera d'en profiter. La bourgeoisie retrouve confiance dans l'économie, nous dit-on ? Eh bien, il faut que les travailleurs retrouvent confiance en eux-mêmes, qu'ils se convainquent de la légitimité de ne pas se laisser faire et qu'ils renouent avec les valeurs sûres de la classe ouvrière, l'organisation collective et les luttes. Le gouvernement ne se contente pas de fouler aux pieds les intérêts matériels et des travailleurs et des chômeurs. Il les déboussole et les désarme politiquement. Quand les mensonges patronaux venaient de Sarkozy, porte-parole naturelle du patronat, les travailleurs pouvaient les rejeter facilement. Mais aujourd'hui, ce sont les socialistes qui nous expliquent qu'il faut faciliter les licenciements pour que le patronat puisse embaucher. Ce sont encore les socialistes qui justifient le contrôle des chômeurs et alimentent les préjugés contre les prétendus assistés. Le gouvernement Hollande a une responsabilité écrasante dans la droitisation de la société, dans le retour des préjugés contre les étrangers, les pauvres, les prétendus assistés. Il est le premier responsable de la progression du Front National. Alors quand il veut se faire passer pour le rempart contre le Front National, il ne faut pas se faire piéger. On l'a déjà vu avec les départementales, on le reverra pour les régionales et la présidentielle. Faute de pouvoir mettre en avant un bilan positif pour les travailleurs, le PS jouera sur les sentiments. Il jouera sur la peur du FN pour que tout le monde à gauche s'aligne derrière lui. Cela s'appelle du chantage. Non, ce n'est pas en s'alignant derrière une politique qui fabrique le FN qu'on pourra le combattre. Ce n'est pas la division de la gauche qui fait le lit du FN. C'est la trahison des idéaux de gauche par le PS. Car le Parti Socialiste ne fait pas que se discréditer en tant que parti. Il contribue à démolir l'idéal porté par des générations d'exploités. Cette trahison ne date pas d'hier. Depuis un siècle, le PS s'est vendu corps et âme à la bourgeoisie. Le Parti communiste s'est développé à ses origines en reprenant à son compte les valeurs du mouvement ouvrier, que le PS avait renié. Mais le PC devenu stalinien les a reniées à son tour, pour finir, au travers de l'union de la gauche, par ressusciter le PS quand ce dernier avait perdu l'essentiel de son influence dans la classe ouvrière. Il faut que renaisse un courant dans la classe ouvrière qui reprenne à son compte les idéaux qui étaient ceux des fondateurs du Parti socialiste et communiste. Les perspectives de révolution sociale. Un courant qui affirme qu'il faut empêcher les licencieurs d'agir en les obligeant à répartir le travail entre tous. Qu'il faut prendre l'argent là où il est, c'est-à-dire sur les dividendes des grands actionnaires. Que nous ne devons rien aux banques, parce que ce sont elles qui sont responsables de la crise et qu'elles se sont déjà largement remboursées sur notre dos. Et puis, dans quel monde vivons-nous ? Des centaines de milliers de migrants fuient la misère, les bombardements ou les dictatures sanguinaires. Ils fuient la barbarie au risque de leur vie, et l'Europe, ainsi que tous les gouvernements, leur conseillent de rester chez eux. De ce point de vue-là aussi, le gouvernement Valls Hollande est un des pires gouvernements bourgeois qui soit. L'expulsion violente des migrants à Paris montre à quel point ce gouvernement prétendument de gauche est aussi horrible que la droite, qui, elle, reprend les idées du FN sur le droit du sol que Sarkozy, pourtant un immigré hongrois, veut maintenant remettre en question avec l'unique préoccupation de faire revenir les électeurs tentés par Le Pen. La plupart des migrants qui campaient à Paris sont des Soudanais ou des Érythréens. La France n'accorde l'asile qu'à 15% de ceux qui en font la demande, bien moins que la Suède qui l'accorde à 100% des migrants, moins que la plupart des pays européens qui accordent le droit d'asile à 85% de ces populations. Bien sûr, ils en ont des grands mots sur la patrie des droits de l'homme, ces hommes de gauche. Mais quand ils sont au pouvoir, ils agissent comme la droite. Durs avec les pauvres et serviles envers les riches. Le drame des migrants montre l'impasse de la société capitaliste. Leur situation étant bien pire, celle de tous les exploités dont le sort préoccupe fort peu les maîtres du monde, pas plus soucieux du devenir des ouvriers licenciés que de ceux qui fuient leur pays. La société n'a jamais été aussi riche. Les moyens de production pourraient permettre à toute l'humanité de vivre dignement à condition de les mettre en commun. Les richesses produites ne doivent plus être accaparées par une minorité de privilégiés et de capitalistes. Mettre en commun, cela, c'est l'origine du mot communiste. Cela veut dire arracher les richesses des mains des financiers qui ne s'en servent que pour spéculer. Ce qui manque aujourd'hui cruellement, c'est un parti qui met en avant les exigences des travailleurs, des chômeurs, des retraités. Un parti qui prenne position politiquement du point de vue de la vie et des intérêts des exploités. Pas des intérêts de la France, pas des intérêts des entreprises, car il s'agit alors toujours des intérêts de Bettencourt, de Bolloré ou de la famille Peugeot, mais des intérêts des exploités. Et un parti qui ne véhicule pas des illusions électoralistes, mais qui dise aux travailleurs qu'il faut renouer avec les luttes collectives parce qu'il n'y a pas à attendre de sauveur suprême. Et lorsqu'elle entrera de nouveau en lutte, il faut que la classe ouvrière puisse s'en emparer contre le grand patronat, contre les licencieurs, contre les grands actionnaires, contre tous ces capitalistes qui coûtent si cher à la société. Il faut affirmer que notre camp, c'est celui de la classe ouvrière internationale. Un aspect essentiel de notre vie et de notre identité, c'est que nous sommes des travailleurs, des manutentionnaires, des employés, des gardiens, des aides-soignantes, des postiers ou des caissières. Au-delà de nos différences, nous partageons les fins de mois difficiles, les pressions des chefs et la menace du chômage. Face aux patrons, nous avons les mêmes intérêts et les mêmes revendications. Nous formons une classe sociale qui doit se battre unie. Il n'y a pas la classe ouvrière de France d'un côté et les immigrés de l'autre. La classe ouvrière forme un tout. Elle est composée pour une grande part d'enfants ou de petits-enfants d'immigrés espagnols, italiens, portugais, polonais, algériens, marocains, sénégalais, ivoiriens. Et c'est sans parler de ceux qui ont été faits français sans avoir rien demandé, comme les travailleurs venus de Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion. Alors ne nous laissons pas diviser. Occupons-nous de nos intérêts de classe. Mettons en avant nos exigences et nous avancerons sur le chemin d'une société tout simplement humaine. La mobilisation de la classe ouvrière pour ses intérêts collectifs est une nécessité pour mettre un coup d'arrêt à l'offensive patronale. Il faut déjà qu'on la prépare dans nos têtes. Mais en attendant, camarades et amis, je vous souhaite bon appétit, une bonne fête à vous tous. Et je vous propose, avant de passer au repas, de reprendre l'international, car oui, l'international et l'internationalisme sont le seul avenir pour le genre humain, débarrassé du fardeau capitaliste.